Le 22 février 1956, au seuil de sa 85e année, Paul Léoto se retira à la vallée aux loups, où avait vécu bien avant lui Chateaubriand. La veille, il avait quitté sa maison de Fontenay-aux-Roses. Sa maison ? Plutôt la maison des chats et des chiens. Lui qui, dans son journal littéraire, semble fasciné par la mort des autres, allait à son tour faire le mort pour de bon. Je ne résiste pas à vous lire cette page si simple, si belle du journal. Vous verrez tout de suite à qui vous avez affaire. « Ma chère Madame Mine est morte cette nuit, très doucement, vers 2h du matin. Je l'avais ramassée un soir, boulevard Saint-Michel, en face de l'école des Mines, en octobre 1912, et amenée dans mes bras, dans le train. Cela fait 12 ans, presque mois pour mois. Depuis quelque temps, elle avait beaucoup maigri. Un énorme abcès lui était venu ces jours-ci à la joue gauche, qui l'avait beaucoup affaibli. Hier, au soir, j'ai passé un moment auprès d'elle, pendant que Marie la pansait. Je me doutais bien que j'allais la perdre. Du moins, elle a été heureuse, gâtée, vivant à sa guise, vagabondant la nuit, ou couchant dans mes bras selon son caprice. Toujours une gourmandise pour elle. Elle tenait une place considérable à la maison. Avec les autres animaux plus anciens, Riquet, Laurent, Bibi, Lolotte, Pibus, quand on ne la voyait pas le soir, on l'appelait dans la nuit. « Madame Mine, Madame Mine, générique !» Éric Godichaud, Paul Léoto en pantoufle. Imaginez un petit appartement. Le maître de maison, Firmin Léoto, joue. Il joue aux cartes. La caméra se déplace vers le sol et là, sous la table, un petit garçon, Paul Léoto, joue avec son chien Tabac. « Mon Tabac, dit-il, mon Tabac, je t'aime. » Ce chien, Tabac, allait le chercher à l'école et aboyait si Paul avait des velléités de prendre la tangente. Il aboyait les tentateurs, une vraie petite mère. Cet enfant, laissé à l'abandon dès sa naissance par une mère dénaturée, comme on disait autrefois, trouva très tôt l'affection qui lui manquait grâce à l'amour que lui donnait ce chien, appelé Tabac, parce que sa robe était d'un beau brun, comme le meilleur tabac. L'affection qui lui était barrée parce que sa mère ne l'avait pas reconnue, trouva à s'épanouir sous cette espèce d'amour absolu que nous portons aux animaux. Pour faire une petite pause, le duo des chats de Rossini. Une fois n'est pas coutume, osons une petite parenthèse personnelle. Notre zouzou, petit Jacques Russel, aux oreilles pointues, fut retrouvé en forêt, une patte cassée, par un coup de pelle ou jeté d'une voiture. Tel Moïse sauvé des eaux, d'après une photo envoyée sur Internet, on alla avec Géraldine jusqu'à Angers. Il y a de l'ange dans l'air. Pour le chercher, celui qu'il avait retrouvé en forêt, la forêt profonde et obscure des contes, voulait à son tour s'en défaire. Surprise, il était beaucoup plus petit que nous l'imaginions. Un Jacques Russel miniature ou un chihuahua géant. Le nom fut vite trouvé. Razibus, puis Zouzou. Parce que malgré ses petites pattes, marchant très vite comme un jouet mécanique, ce Zouzou fait penser à l'onomatopée d'un corps lancé en à pleine vitesse. Zou ! Eh bien, ce chien est un petit clown. Et lorsqu'on s'embrasse avec Géraldine, il aboie à tout va, comme dans le film de Jarmusch, Patterson. Fermons la parenthèse. Léoto lui-même était assez lucide sur sa condition de grand enfant traumatisé par ce manque d'amour, éternel ronchonneur. Il râlait, vociférait contre les êtres humains parce que son âme d'enfant avait été saccagée. Sa mère, dès sa naissance, l'abandonna à son père, incapable d'aimer, et le peu d'amour qu'il reçut vint de sa nourrice, du chien tabac, puis ensuite des prostituées qui prirent soin de ce garçon maladroit. C'est là la tragédie de Léoto, l'explication de sa profonde haine des autres qui lui faisait être aussi médisant qu'une concierge. Contrairement à Gide ou Marcel Proust, si on veut, qui connurent l'accueil douillet d'une famille, Paul Léoto cria sa venue au monde et sa mère ne l'entendit pas. Paul Valéry disait de lui « Léoto n'est pas méchant, il est mauvais. Et pour les amis, il en rajoute. » C'est qu'il n'avait pas eu une mère suffisamment bonne. Il cherchera toute sa vie dans les femmes l'image fortement érotisée de sa mère, précisément, et c'est une sorte d'accomplissement, d'un fantasme d'inceste, parce qu'elle tena si peu sa mère le rôle d'une mère qu'on dirait maternante.
La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant, froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou. De l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou. Certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le froufrou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce froufrou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose. Il s'électrise et devient fou. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou. De l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou. Certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. En culotte, me direz-vous, on est bien mieux à bicyclette. Mais moi, je dis que sans froufrou, une femme n'est pas complète. Lorsqu'on la voit se retrousser, son cotillon vous ensorcelle. Son froufrou, c'est comme un bruit d'aile qui passe et vient vous caresser. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou. De l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou. Certainement la femme séduit surtout par son gentil frou-frou.
Léoto le méchant, Léoto l'intrabilaire, l'intransigeant, redevenait l'enfant blessé sous la table, trouvant l'amour grâce au chien. Léoto fut toute sa vie le défenseur zélé de la cause animale. Il dénonça les mauvais traitements faits aux bêtes et même partit en croisade à son époque dans les années 20 contre la vivisection. Toute une partie de son journal littéraire décrit par le menu ses trésors d'ingéniosité, la générosité incroyable qu'il a fait nourrir des chats, sauver des chiens, sans qu'il ne se pose aucunement la question de son petit confort personnel. Fâché avec les hommes, surtout avec ses parents, il reporta toute sa tendresse qui affleure, malgré le rire sarcastique qu'il arbore en toute occasion, sur les animaux. Par son passé d'enfant mal aimé, il fut poussé à une certaine sauvagerie envers le genre humain, tandis qu'il déployait, lui, son humanité du côté des animaux. Prenons le tramway jusqu'à Fontenay-les-Roses. La banlieue déplie son long ruban un peu triste. Maison grise, pluie qui brille sur les pavés. On peut voir des chats en équilibre sur les toits, espèce d'alpiniste sans cordes, nickelé. Un autre, tout pelé, passe difficilement par un trou dans la palissade. Oh, un homme se saisit d'un chien, lui met une pierre au cou, le jette dans le canal. Je saute du tram. J'arrive à la maison et même dans le jardin, en poussant la grille rouillée, une forte odeur d'urine m'importune. On arrive sur une petite terrasse. Le maître est là, m'attend, habillé d'une robe de chambre un peu râpée, jaunie, se fraye un passage parmi les gamelles, les piles de livres et les rouleaux du journal, recouverts d'une écriture aussi fine qu'une toile d'araignée.
La radiodiffusion française présente... Entretien avec Paul Léoto. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet.
Les choses de la mort m'intéressent. Là.
J'aimerais savoir pourquoi elles vous intéressent. Ce n'est pas sur le plan philosophique qu'elles vous intéressent, car vous dites la pensée des morts, je m'y complais, vous ne dites pas la pensée de la mort.
Ouais.
D'ailleurs, vous parlez très souvent des morts, et vous ne parlez presque jamais de la mort, avec un M majuscule.
Enfin, je l'ai écrit dans un morceau de propos d'un jour, n'est-ce pas ? La mort est plus belle que la naissance. La pauvreté est plus belle que la richesse. La solitude est plus belle que la société. Un écrivain de talent qui est inconnu, c'est plus beau qu'un écrivain de talent qui connaît.
Mais pourquoi ce panégyrique de ce qui est en somme la souffrance ?
Non, parce que la mélancolie est une chose admirable. Et que, comme je le dis, un homme, une femme qui ont aimé dans leur vie et qui finissent leur existence dans un troisième étage, n'ayant pour compagnie leur souvenir, c'est plus beau que la gueule entourée d'un tas de petits-enfants. Enfin, la mélancolie, la solitude, et gré aussi, le bonheur, c'est médiocrité.
Eh bien, j'ai l'impression que cette tournure d'esprit que vous avez, pour ne pas dire cette tournure de cœur, cette tournure d'esprit est tout de même fraternelle. Être plus intéressé.
Mais n'est pas rationnel que tous un spectateur et enfin je suis porté par ma nature aux choses désastreuses, aux choses mélancoliques, voilà, aux choses solitaires. Je suis porté vers ça.
Vous les trouvez?
J'étais comme ça quand j'étais enfant, quand j'ai vu me cacher sous une table sans jouer ni rien du tout et que je me plaisais là, c'était déjà ma nature.
Alors c'est une forme de caractère désabusé.
Si vous voulez, je crois que lorsque je suis en société, je suis drôle, je suis amusant, j'ai des réparties, tout ça, n'est-ce pas ? Enfin, on trouve que je suis très drôle, enfin, très amusant, très spontané, que j'ai des répliques vives. Mais chez moi, je me foutrais à l'eau. Quand je suis seul chez moi, je me foutrais à l'eau.
Vous avez donc une espèce de nostalgie très profonde que vous portez en vous depuis votre enfance.
Et que je ne sais pas une nostalgie, je ne regrette rien, je ne regrette pas. Je ne regrette pas le bonheur, ça ne m'intéresse pas du tout, n'est-ce pas?
Éprouver le besoin par moment de se flanquer à l'eau, comme vous dites, est tout de même une façon de regretter un sort qu'on n'a pas connu.
Mais pas du tout, on est tourné comme ça. C'est peut-être un empoisonnement, ainsi, n'est-ce pas? Quand j'allais à Pornic, chez le fléau, n'est-ce pas? Passer 8 jours, 15 jours, enfin c'était les vacances tout de même, n'est-ce pas? C'était convenu, ne me parlez pas le matin quand j'arrive. Alors ouais. Je descendais du grenier, je me levais, je menais à la cuisine, prendre le café au lait, et elle savait ne pas me parler. J'étais dans un état moral, comme je suis à tout m'élever, un état moral déplorable.
La vie vous fait peur?
Non, qu'est-ce que je sais pas ce que j'ai, je ne sais pas si c'est le sommeil qui m'intoxique, enfin je tout oublie. Voilà. Et alors, du reste, je crois que le sommeil m'intoxique. Quand il m'arrive dans la journée de sommeiller dans mon fauteuil, quand je me réveille, il me faut une demi-heure pour me remettre, enfin, dans un état à peu près.
Vous avez donc une certaine appréhension vis-à-vis du sommeil?
Non, pas d'appréhension. Il faut bien que je dorme. Enfin, n'est-ce pas? Enfin, c'est comme ça. Je ne peux pas expliquer ça.
Alors, la mort doit provoquer en vous une certaine peur, puisque la mort...
C'est que je n'ai pas peur de la mort, j'ai la révolte de la mort. Voilà, je trouve ça bouffon de s'en aller. Pourquoi est-ce ennui, alors?
C'est un sentiment très romantique que vous exprimez.
Eh ben, admettez que je sois romantique. C'est une nouveauté pour moi.
Ben, vous venez de le prouver. La mort métaphysique, la mort philosophique, si vous préférez, cela ne vous préoccupe pas. Vous deviendrez dans l'au-delà... Vous vous en souciez fort peu.
Oui, je le sais du reste, ce que je deviendrai.
Mais vous avez de la chance, dites-le-moi.
Voilà.
Que deviendrez-vous?
Je deviendrai un petit absent dans leurs urnes.
Vous niez donc absolument l'existence de l'âme?
Oui, oh, absolument. Je trouve que l'âme, c'est un phénomène physique qui existe en nous tant que nous vivons, et le jour où on cesse de vivre, où tout s'éteint, l'âme, du reste, c'est un mot qui ne signifie rien. Rien! L'intelligence, le cerveau est une chose qui n'est pas l'âme. Le cerveau est un composé chimique qui est plus ou moins dosé chez les individus. Vous savez que la valeur intellectuelle dépend de la quantité de sel qu'on a dans l'organisme.
Alors,
rien de plus.
En somme, vous êtes, on pourrait dire, un matérialiste.
Oui, plutôt. Ah oui. Oh, oh.
Vous ne croyez qu'en la matière.
Absolument.
Et vous ne croyez pas en la prolongation dans une vie spirituel.
Oh, aucune. Ça, je suis rétif complètement. J'ai le respect de la religion chez les autres. Je conçois qu'on croit, n'est-ce pas? Je trouve ça très bien. Je suis pour la liberté des cultes et qu'on n'empêche pas d'aller à la messe les gens à qui ça plaît d'y aller. Mais moi, je trouve ça puéri.
Mais ce mélange chimique qui produit l'intelligence, vous ne paraissez guère l'apprécier? Puisque vous vous plaisez beaucoup plus dans la compagnie des animaux que dans celle des hommes.
Oui, bon.
Vous vous méfiez de l'intelligence?
Non. Non, au contraire, l'intelligence, c'est pour moi, quand je trouve qu'un individu, mon Dieu, a des qualités, ça m'intéresse beaucoup. Il n'y a aucune comparaison, vous faites un rapprochement qui ne tient pas debout. Je n'aime pas la société. Je n'aimais pas la société des enfants quand j'étais enfant. Je vivais seul, n'est-ce pas? Le Berlotto ne pouvait pas arriver à me faire sortir de ma table. Je suis resté comme ça, comme moi. J'aime mieux être chez moi seul que d'être en société.
Et c'est au nom de l'intelligence que vous niez l'âme?
C'est-à-dire qu'il y a là un côté abstrait, métaphysique, tout ça, à quoi je suis complètement fermé.
Vous croyez ce que vous voyez? Et vous niez ce que vous ne voyez pas.
Ouais, si vous voulez.
C'est une forme un peu simpliste de rationalisme.
Si vous voulez. Ouais.
Ben, je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps avec ces propos philosophiques qui, je sais, vous déplaisent prodigieusement. Je voudrais vous faire revenir à la pensée des morts.
Thank you.
Paul Léoto parle de lui, du rédacteur du journal, comme un fossoyeur. Puis énumère toutes les célébrations mortuaires. Mort de Fanny, sœur de ma mère. Mort de Firmin Léoto. Mort de Marcel Schwab. Mort de Charles-Louis Philippe. Mort de Copé. Mort du bailli. C'était le mari de sa maîtresse qu'il appelait le fléau. Mort de Valette. Mort du fléau. Puissais-je en écrire pas mal d'autres ? Ajoute Léoto, il y manque la mienne, à mon grand regret. Journal littéraire, 29 octobre 1950. La mort le fascine. Pour lui, elle est inadmissible. Parlant de son ami Dumur, dont il suivra l'évolution d'un cancer foudroyant, il écrit, dans son journal, « Des cellules parasitaires s'emplacent dans l'organisme, poussent, se développent, se multiplient, obturent, comprimant les organes, les gênant, entamant les tissus, une sorte de moisissure qui s'étend. Entre mai 1931, date de la première opération du mur, et mars 1933, date de sa mort, Léoto recense toutes les étapes d'une lente destruction. Par exemple, le 12 septembre 1932, ablation d'une assez forte excroissance de chair qui obstruait les voies respiratoires. Son état semble s'améliorer. Plus loin, il dort, il s'alimente, plus de perte de sang, tout à fait en train. Puis le 11 janvier, tout change. Grande difficulté à se nourrir, près de 5 heures pour absorber une tasse de lait. Faiblesse qui augmente, morale entamée. Il a eu pour la première fois un mot significatif en disant à Madame Isambard « Je ne guérirai pas ». Puis Léoto finit. C'est un commencement de décomposition des tissus malades qui gagne peu à peu la tête puis la nuque. Son corps devient une machine qui se déboulonne. Ses yeux ont un éclat métallique. Sa barbe semble postiche. Il n'est plus. Alors, parmi toutes ces manifestations, sous des signes extérieurs, Léoto décide de se mettre dans la peau du mourant. Il cherche des équivalents de la mort dans la vie. Mais c'est impossible, car comme l'a dit justement la psychanalyse, tant qu'on est en vie, on n'est pas mort. Car ce qu'interroge, et c'est la seule qui le fait, la psychanalyse, c'est précisément au-delà, ou plutôt en deçà de la mort, avec un grand M, qui marque le point, le passage invisible entre la vie biologique et l'inexistant, c'est la vie dans la vie, le vivant psychique. Si Léoto est si fasciné par la mort, c'est qu'il sait que sa naissance porte une mort, parce que sa mère ne lui a pas donné la vie, mais s'est arrêté par sa non-reconnaissance au seuil de la porte dont parle Jésus dans les évangiles selon saint Jean. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Thank you. Le jardin à Fontenay-aux-Roses est un véritable cimetière. C'est là que Léoto a enterré tous ses chats et ses chiens, plus d'une centaine. Les fantômes de tous les chats et de tous les chiens de Paul Léoto glissent sur l'herbe, et tandis qu'une ombre là-bas ressemble à s'y méprendre à leur maître, manteau de pauvre, pantalon tenu par une ficelle, vilain chapeau tout déformé, canne en bambou, les fantômes canins et félins font une danse, moitié comique, moitié sérieuse, pour dire enfin à leur maître esselé, bienvenue, bienvenue Paul. Thank you.